Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il y a 100 ans, mourait à Tamanrasset une grande figure de la sainteté française, Charles de Foucault. Rapidement considéré après sa mort comme un saint homme et ce même par les musulmans avec qui il vivait, ce converti qui n'avait pas toujours été le moine ermite missionnaire qu'il était devenu à la fin de sa vie, a laissé dans son sillage une spiritualité, une famille spirituelle et une manière de dialoguer avec les musulmans. L'histoire de la vie d'un bienheureux qu'il est urgent de redécouvrir en ces temps troublés, cet anniversaire nous en donne l'occasion. Alors, pour parler ce matin de Charles de Foucault, avec cette question toute simple, qui est Charles de Foucault ? Même quand on est chrétien, on a parfois ou souvent entendu parler de Charles de Foucault, mais on ne le connaît pas forcément très bien. Je suis ce matin avec Geneviève Roland. Vous êtes mariée, mère de famille et grand-mère, et responsable diocésaine de la Fraternité Séculière. Bonjour.
Bonjour.
Le frère Marc Caillier, vous êtes petit frère de Jésus, ancien prieur des petits frères de Jésus. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous ne voulez pas que je le dise, mais je le dis quand même, il vient spécialement de Lille pour cette émission. Et petite sœur Bernadette Blandine, vous êtes petite sœur de Jésus et vous vivez en fraternité à Ampalo. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour ma sœur. Alors au début de cette émission, je voulais avec vous nous plonger dans la vie et on va dire dans la jeunesse de cet homme. D'où vient-il ? Peut-être pouvez-vous nous dire cet homme donc, qui est né en, le 15 septembre 1858 à Strasbourg. Il est mort donc, le 1er décembre 1916. Il est mort assassiné, on verra ça plus tard. Peut-être je me tourne vers vous, frère Marc Caillier. Qui était-il ? Vous pouvez nous resituer. Quelle était sa famille et quel a été le début de l'histoire de cet homme ?
Le début de l'histoire de cet homme, ça n'a pas été un début facile. Il est né dans une famille... son père était ingénieur des forêts, des eaux et forêts, comme son grand-père d'ailleurs, je crois, paternel. C'est une famille de l'ancienne noblesse et la sœur de son père était mariée avec un riche banquier. Donc c'est une famille où certainement il y avait de l'argent, ça sera un problème pour Charles plus tard. Mais la difficulté de ce jeune garçon, il a une sœur qui a 3 ans de moins que lui, Marie, et puis il y avait un autre Charles qui est né un an avant lui et qui est mort. Et Charles est venu après et baptisé lui aussi Charles. Et les deux enfants, Charles et Marie, ont perdu leurs deux parents la même année quand ils avaient 6 ans. Ce qui est quand même un choc et un traumatisme. Ils ont été considérables. Ils ont été accueillis. Il n'en parle pas beaucoup du traumatisme, mais sans doute parce qu'il a été accueilli par le grand-père maternel et la grand-mère, et tous les deux, Charles dira, ils ont entouré mon enfance de beaucoup d'affection et de d'attention. Certains disent qu'ils l'ont aussi beaucoup gâté, mais certainement ça l'a aidé à dépasser un peu ce traumatisme terrible de la mort des parents.
Alors donc après, donc il naît dans cette famille, c'était une famille chrétienne ou pas ?
C'est une famille chrétienne, oui, bien sûr.
Parce que sa mère, il dit de sa mère aussi que sa mère était une chrétienne très fervente.
Il dit « j'ai appris à prier sur les genoux de ma mère ». Le grand-père était aussi un chrétien très fervent. Et donc il est né en 1858. 1870, c'est la guerre de 1870. Et ils sont obligés de l'Alsace-Strasbourg est annexée. Et donc ils sont obligés de se déplacer et ils s'installent à Nancy. C'est aussi quelque chose qui certainement restera dans la tête de Charles comme un élément marquant. Il aura toujours le rêve de revenir à Strasbourg.
Alors ensuite, c'est un garçon qui se destine à une carrière militaire. Est-ce qu'il peut nous dire un mot, peut-être son adolescence et comment il en vient à rentrer à Saint-Cyr ?
Alors son adolescence est assez étonnant pour notre époque. C'est quelqu'un qui avait une passion pour les livres. Sa grande détente, c'était les livres. Un de ses cousins qui disait « Off, il avait juste un an de plus que moi, mais il venait jamais avec mes jeux. Ce qui l'intéressait, c'était de fouiner la bibliothèque de mon père et des choses comme ça. » Et il avait un très grand ami qui s'appelle Gabriel Tourde et dont on a une correspondance qui s'étale depuis sa jeunesse jusque l'année avant sa mort. La dernière lettre date de 1915. Et donc là, on a toute une correspondance de cette époque et on voit qu'avec cet ami, il passait des heures et des soirées à bouquiner et à bouquiner tout. Et je crois qu'on a beaucoup parlé de la jeunesse dissipée de Charles de Foucault. En fait, c'est une jeunesse studieuse. Il a passé son bac avec une dispense d'âge parce que il était en avance. Ensuite, ça commence à se gâter. Justement, quand il décide de faire la formation militaire, il fait Saint-Cyr, puis Saumur, l'école de cavalerie. Et là, il travaille le minimum juste pour être admis aux examens et passer dans les choses qui l'intéressent. Je crois qu'en fait, plus qu'un homme, qu'une jeunesse dissipée, c'est une jeunesse rebelle. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'autorité. Curieusement, il s'engage dans l'armée, alors que je crois qu'il a une énorme difficulté avec l'autorité.
Pourquoi ? Parce qu'il a tout simplement un très fort tempérament ou il est...
Il a un tempérament et puis il se cherche. Et je crois une chose qu'il a aussi beaucoup marqué, il a des éducateurs, il a des professeurs à Nancy avec qui il est très lié et qu'il admire beaucoup, qui sont des gens qui l'ont très fort marqué par leur science, par leur curiosité, par leur capacité à ouvrir l'esprit. Et en même temps, il dit que c'était des gens neutres. Ça veut dire, au plan de la religion, c'était des gens qui sans doute n'en parlaient pas. Et il dit lui-même, j'en suis venu à penser qu'au fond, on pouvait très bien vivre sans religion. Je crois que ça rejoint, des fois ça me fait penser à beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, au fond, j'en suis venu à penser que la religion c'était tout à fait accessoire. Quoi.
Alors justement, est-ce que vous pouvez un petit peu développer, j'avais lu ce passage, dès l'âge de 15 ou 16 ans, toutefois avait disparu en moi, les lectures dont j'étais avide avaient fait cette œuvre, je ne me rangeais à aucune doctrine philosophique, n'en trouvant aucune assez solidement fondée, je restais dans le doute complet, éloigné surtout de la foi catholique, dont plusieurs dogmes, à mon sens, choquaient profondément la raison. C'est vrai qu'en soi, il est très actuel, très contemporain. Alors on ne veut pas dire que tous les jeunes aujourd'hui dévorent des ouvrages comme lui, mais en tout cas, il y a aussi toute une jeunesse intellectuelle qui ne se reconnaît pas du tout dans la foi chrétienne.
Et je pense que il exprime ça, c'est un texte de relecture tardive, c'est pas sur le moment, mais sur le moment même, lui-même il dit à cet ami, là, Gabriel Tourde, qui l'a accompagné donc toute sa vie, « Nous avons ensemble désappris à prier ». Parce qu'on a lu d'autres choses, parce qu'on a rencontré des gens intelligents pour qui c'était pas important. Et il dit, j'étais à ce moment-là complètement replié sur moi-même. Et je crois que ça, c'est certainement quelque chose de caractéristique aussi.
Mais avant qu'on parle de ça, est-ce à dire qu'en fait, à cet âge-là, malgré tout, il cherchait un peu un sens à la vie, ou est-ce que ça serait un peu exagéré de dire ça ?
Je pense qu'il cherchait un sens à la vie comme tout jeune à cet âge-là, et il se cherchait, mais... Et certainement, c'est intéressant de voir cette passion de la lecture, cette passion des auteurs. Il commente, il sait commenter. Donc il cherche, il débat d'idées, il creuse, etc., etc. Ça l'intéresse beaucoup. Mais je ne crois pas que c'est la foi religieuse. Ça, c'est justement un aspect qu'il a complètement laissé de côté.
En tout cas, c'est une intelligence supérieure. Enfin,
C'est le témoignage qu'on donne de lui.
C'est pas un adolescent comme les autres, on va dire.
C'est le témoignage qu'on donne de lui, qu'il a une intelligence supérieure et qu'il est assez paresseux.
Alors, ensuite, donc cet adolescent studieux, sa vie va basculer pendant quelques années, hein, vous allez nous dire combien de temps, où il va en fait mener une vie de débauche.
Alors, la vie de
qu'est-ce
débauche.
Qu'est-ce qui se passe en fait ?
La vie de débauche, je crois que là, on a beaucoup fantasmé sur la vie de débauche.
Oui, parce que même en lisant la biographie que vous m'aviez conseillée, donc Charles de Foucault sur les pas de Jésus de Nazareth aux éditions Nouvelle Cité, à un moment, il est dit qu'il faisait presque des orgies chez lui, enfin, il faisait venir des prostituées. Il y a même cette phrase, j'étais devenu moins qu'un homme. J'étais moins qu'un homme. Je ne retrouve plus la citation exacte.
J'étais comme un porc, exactement. Oui, on n'a pas beaucoup de détails. C'est vrai qu'il aimait faire la fête. Il aimait faire la fête. Il aimait organiser la fête. Il aimait recevoir les amis. Il avait l'argent pour ça. Et il a dépensé une fortune folle dans ce genre de choses. C'était la vie de garnison. La vie de garnison l'a toujours embêté. Il s'ennuyait. C'est assez étonnant pour un jeune de cet âge-là, sous sa plume, le nombre de fois où il dit « je m'ennuie à mourir ». Et donc, il s'est noyé là-dedans, d'une certaine façon. Mais on a beaucoup fantasmé la débauche, au sens les filles, etc. Peut-être aussi avec une histoire qui lui est arrivée et qui montre son aspect rebelle juste avant de quitter l'armée, quand il part en Algérie. Donc, il a fait une école militaire, puis l'école de cavalerie.
Il a fait Saint-Cyr,
l'école de cavalerie de Saumur. Il sort dernier de sa promotion, mais c'est pas grave, il sort quand même. Et il est nommé à Pont-à-Mousson, ce qu'il a beaucoup cherché, parce que c'est pas loin de Nancy, il peut retrouver ses amis et sa famille sur Nancy. Et finalement, là où il se retrouve, c'est quand il est envoyé en expédition en Algérie. En colonne, c'est l'époque coloniale, hein, c'est l'époque où l'armée est en train de gagner du terrain en Algérie. Et là, pendant 7 mois, il va vivre sous la tente. Il écrit à cet ami, Gabriel Tourde, « Pendant 7 mois, j'ai pas passé 2 nuits dans une maison. » Ça, ça le passionne, l'activité. Il se découvre comme un actif. Au fond.
Comme un aventurier.
Il a besoin de ça. Comme un aventurier, ça va venir un peu après, mais c'est ça. Et cette première expédition, c'est aussi la découverte de l'Algérie, et c'est un pays qui le fascine. C'est un très beau pays. Il écrit à Gabriel, si tu pouvais venir, tu verras, c'est magnifique. Et petit à petit, il va découvrir aussi les gens. Ça va aussi le fasciner. Mais quand il est arrivé pour cette expédition, il a amené avec lui une femme, avec qui il était à ce moment-là. Ses chefs avaient repéré cette situation, mais avaient trop rien dit. Mais quand ils ont vu que dans ses bagages pour se transférer en Algérie, il y avait une quantité de valises, ils ont bien pensé que la dame allait suivre. Et donc, ils lui ont dit, surtout, vous ne l'amenez pas. Et puis, non seulement il l'a amené, mais il l'a présenté comme la vicomtesse de Foucault. Et donc ça n'a pas plu du tout à l'armée. Et lui, s'est obstiné. Et je crois que c'est cet aspect rebelle.
Il avait un très fort tempérament, en fait.
Il avait un très fort tempérament, et il voulait le montrer. Et je crois que si l'armée, au fond, c'était pas le fait qu'il ait une liaison avec une femme qui l'a gêné, mais c'est le fait qu'il a plusieurs fois refusé d'accepter les remontrances qu'on lui faisait, et surtout d'accepter l'obligation dans laquelle on le mettait de quitter cette femme.
Alors, on va un peu vite, hélas, hein, parce que l'émission ne fait qu'une heure. Donc, avec l'armée, il a des déboires, il démissionne de l'armée, après il repart en exploration au Maroc, et puis il revient en France. Et en France, au contact d'une cousine, si je ne me trompe pas, il finit par rencontrer l'abbé Uvelin, c'est ça ? Huguelin, oui. Pardon.
Uvelin.
Et là, c'est la conversion à Saint-Augustin, donc église qui existe toujours à Paris.
Mais la conversion est préparée, justement, on va en parler plus tard, je pense, de ce voyage au Maroc, qui pour lui est quelque chose. C'est le voyage où il se réalise. Il revient en disant « j'ai réussi ». Et je crois, il a 23 ans ou quelque chose comme ça, il est tout jeune. Mais pour lui, c'est « ça y est, j'ai réussi quelque chose ». Et je peux me poser dans la société. Il a la gloire. Il reçoit la médaille d'or de la société.
Parce que donc, en fait, il mène une exploration assez dangereuse au Maroc, qui n'est pas français,
ou qui est interdit aux étrangers.
Il mène, en fait, secrètement, il se fait passer pour un juif.
Il fait ça déguisé, et il dira de voir la foi des musulmans, et ces gens qui vivent dans une continuelle présence de Dieu, parce que dans la langue, il y a tout le temps « si Dieu veut, Dieu merci », etc., etc. Et ça a commencé à le travailler. La seconde chose qu'il travaille, c'est d'être recueilli dans sa famille, et accueilli, il dira, comme l'enfant prodigue, mais sans aucun reproche. Et il dit...
sans question, même, sur sa vie.
À la fois sa tante, à la fois sa tante, et surtout cette cousine, Marie de Bondy, qui a une grande place dans sa vie. Il dit, ils m'ont accueilli, il y avait une présence chaude, affectueuse, mais qui ne m'a jamais fait de reproche. Et je crois que ça le marquera pour la vie, d'une part parce que c'est comme ça qu'il a cheminé vers la foi, mais ça sera aussi, au fond, sa méthode d'annonce de l'Évangile. Une présence chaleureuse qui accueille sans poser de questions.
Alors, qu'est-ce qui se passe le 29 ou 30 octobre 1886 ? Donc, sa cousine l'introduit auprès de l'abbé Uvelin. Peut-être que ça vaut le coup de dire un mot de cet abbé, parce qu'en fait, ce n'était pas un prêtre de paroisse comme les autres. C'était quelqu'un qui avait énormément de charisme.
Cet abbé Uvelin, c'est quelqu'un qui avait énormément de charisme et énormément de culture. Et c'est quelqu'un qui était connu. Donc, il était officiellement vicaire dans cette paroisse Saint-Augustin, mais il était surtout connu par des conférences hebdomadaires, je crois, qu'il faisait, où toute la jeunesse parisienne, le tout Paris, venait pour écouter cet homme-là, et ça l'a beaucoup marqué. Il était lié avec la famille, et donc à un moment il dit comme j'avais pris des leçons d'arabe pour préparer mon expédition, j'ai voulu demander des leçons de foi catholique, et j'ai été adressé à cet abbé qui m'a dit confessez-vous. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Il l'a fait se confesser, il lui a donné la communion, et ça pour Charles c'est un choc. C'est la rencontre avec quelqu'un, c'est la rencontre avec Jésus, comme quelqu'un de vivant qui l'accueille. Comme sa famille l'a accueilli sans rien, sans un mot de reproche, Dieu l'accueille et se donne à lui dans l'Eucharistie sans un mot de reproche. Et il dira plus tard, « Dès que j'ai su qu'il y avait un Dieu, j'ai su que je ne pouvais pas faire autrement que vivre pour lui. »
«
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, nous parlons de Charles de Foucault avec cette question toute simple. Qui était Charles de Foucault? Je vous rappelle que nous sommes avec Geneviève Roland, mariée, mère de famille et grand-mère responsable diocésaine de la fraternité séculière à Toulouse. Le frère Marc Haillé, petit frère de Jésus, ancien prieur des petits frères de Jésus. Et petite sœur Bernadette Blandine, petite sœur de Jésus, qui vit en fraternité à Empalou. Alors c'est vous, mon frère, qui avez beaucoup la parole, mais je la donnerai aux sœurs au fur et à mesure. Hein. Maintenant... Donc vous nous avez parlé donc cette conversion, de cette rencontre avec avec Jésus. Rapidement, vous dites, vous l'avez dit avant cette pause, en fait, que tout de suite il se dit, enfin monte dans son cœur, si Jésus existe, je ne peux que donner toute ma vie à Dieu. Donc se pose rapidement pour lui la question d'une vie monastique. Et il pense assez rapidement, enfin à une vie monastique. Il cherche la vie monastique la plus radicale ou la plus proche de la vie de Jésus, enfin en tout cas c'est comme ça qu'il le présente, c'est une vie évangélique, et donc il pense à la trappe. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette vocation où l'abbé Huvelin en fait essaie de temporiser quand même un minimum l'ardeur de ce jeune converti?
Il dira, l'abbé Huvelin m'a fait patienter 3 ans, et l'abbé Huvelin et peut-être la famille aussi a même essayé de lui arranger un mariage, mais ça n'a pas marché. Et alors l'abbé Huvelin a cette idée géniale de l'envoyer faire un pèlerinage en Terre Sainte. Et je crois que là, il va y avoir un autre choc. Il a fait la rencontre de Jésus dans sa conversion. Et il dira à Nazareth, dans cette ville où Jésus a vécu, en mettant mes pas dans ceux de Jésus, j'ai entrevu ce qu'était la vie de Nazareth pour Jésus. Et pour lui, qui vient d'une famille aristocratique, enfin d'une famille en tout cas où il y a de l'argent, réaliser tout d'un coup en marchant sur place dans ce que pouvait être Nazareth il y a plus d'un siècle, une grosse bourgade, et avec tous ses préjugés, disons, de son rang dans la société, il a l'impression, il réalise, Jésus était un pauvre ouvrier de cette bourgade de Nazareth. Et ça, pour lui, c'est une lumière fantastique. Le Fils de Dieu s'est fait pauvre ouvrier d'une bourgade de Nazareth. Et alors il dit, voilà, j'ai trouvé ma vocation, et il aura un texte où il dit, je cherche le lieu où je vais pouvoir le mieux vivre à la fois le désir d'intimité avec Jésus, cette phrase que j'ai dite tout à l'heure, j'ai découvert que je ne pouvais vivre que pour lui, dans son intimité, dans la présence, tout pour lui. Et puis aussi, dans cette pauvreté, il pense à la trappe comme l'austérité de la trappe. Il rentre à Notre-Dame-des-Neiges, et peut-être qu'il avait entendu parler, en tout cas il est assez vite envoyé dans une trappe en Syrie, dans un lieu qui s'appelle...
Donc il rentre le 16 janvier 1890, hein, c'est ça.
Et le après, 16 janvier, ça c'est à Notre-Dame-des-Neiges, et quelques mois après, il est envoyé
juillet, à la trappe
à Agbès, en Syrie. C'est une trappe très pauvre, dont il trouvera qu'elle n'est pas assez pauvre, et dont il sortira 7 ans après, au moment de faire les vœux perpétuels, avec une phrase assez intéressante où il dit, au fond, la trappe me faisait grandir. À la trappe, évidemment, ils ont vu la qualité du bonhomme, et donc ils ont commencé à lui faire faire les études de théologie avec la perspective d'être prêtre. Et ça, pour lui, il voulait pas du tout de cette chose-là.
Alors, il y a quelque chose justement qui est assez impressionnant. Alors, vous en même temps, quand vous insistez davantage sur cette jeunesse lettrée plutôt que cette jeunesse dissipée...
Lettrée et rebelle,
on comprend que, en fait, cet homme a quand même une réelle envergure. Néanmoins, c'est vrai que, voilà, il est converti. 4 ans après, il rentre à la trappe. Et puis, tout de suite, en fait, c'est ce que j'ai lu, en tout cas, dans le bouquin que vous m'avez conseillé, qu'il est vu comme un saint homme, ou enfin comme un moine exemplaire, on a envie de dire, un jeune novice qui rentre à peine, qui est un jeune converti et qui a eu en plus une vie compliquée avant, tout d'un coup de devenir un moine exemplaire, il y a quand même quelque chose d'assez mystérieux là-dedans, d'assez inexplicable.
D'abord, c'est pas un tout d'un coup, parce que je crois même sa conversion, elle a été préparée d'une part par ce voyage, plus un an de préparation de son livre sur l'exploration au Maroc et tout ça, donc même plus de temps que ça. Il y a quand même 2 ans entre le moment où il finit son exploration, donc 2 ans de réflexion. Il disait, je rentrais dans les églises, j'aimais rentrer dans les églises, et je faisais cette étrange prière, c'est ses mots à lui, « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». Donc il y a 2 ans d'une espèce d'angoisse, il y a 2 ans où il y a toute une préparation intérieure. Et puis il y a cette conversion, disons, brusque, mais il y a ensuite 3 ans d'attente. Il a été dans plusieurs monastères, l'abbé Uvelin lui a envoyé faire plusieurs retraites. Et alors, Charles de Foucault l'a sans doute jamais su, mais l'abbé Uvelin, une fois, en l'envoyant à la trappe d'Aiguebelle, je crois, avait fait un mot de présentation dans lequel il disait « Cet homme fait de la religion un amour ». Et donc ça, je pense que c'est quand même 5-6 ans de maturation.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, cette phrase ?
Ah ben, je pense que ça voulait dire tout à fait ce qu'est Charles. Charles, à un moment, dira « J'ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth ». Et je crois que sa religion, c'est une histoire de cœur perdu. C'est une histoire, j'ai trouvé un ami qui est quelqu'un de vivant et de proche, et je lui donne mon cœur, et je lui donne mon cœur pour ma vie. Et je crois que ça, c'est très Charles. Et il arrive à la trappe avec toutes ces années de préparation, donc c'est pas un tout jeune novice qui tout d'un coup ça lui est tombé dessus, quoi. C'est quand même...
Alors il y a autre chose, c'est que c'est l'abbé Uvelin, je crois, qui dit ça. Alors je me tourne vers vous, petite sœur Bernadette Blandine. C'est l'abbé Uvelin qui a cette phrase « Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir ». Alors est-ce que c'est bien de l'abbé Uvelin ou est-ce que c'est de Charles de Foucault ? Mais en tout cas, une espèce d'obsession chez lui de vouloir rejoindre ce Jésus pauvre et plus que pauvre, en fait, ce Jésus qui est le dernier des derniers, ce qui est, je ne sais pas si à l'époque c'était assez révolutionnaire, mais enfin, en tout cas, c'est à l'image de saint François d'Assise, et ce n'est pas toujours l'image de Jésus qui a été présentée dans l'histoire de l'Église.
Je crois que c'était en effet très révolutionnaire, et ça a été pour Charles de Foucault une révolution. Et quand Charles de Foucault parle d'abjection, on s'aperçoit qu'en réalité, c'était des choses qui paraissaient très, très simples. Par exemple, dans le travail, voir un frère à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges en train de bêcher le jardin, ça n'a rien d'extraordinaire. Il était vêtu très pauvrement, mais ça n'avait rien d'extraordinaire. Quand il énumère les activités qu'il fait chez les Clarisses, sacristain, aller porter le courrier, faire des courses, il y a plein de gens qui ne font pas plus. Mais pour lui, c'était quelque chose de pas ordinaire d'après le milieu qu'il avait, dans lequel il était. Et quand il parle de descente, bon, sa descente sociale, si j'ose dire, il l'insère dans la descente du Christ, de Jésus sur la terre, dans un mouvement d'incarnation. Et donc, pour lui, ça le dirige, et c'est toujours être à la dernière place, c'est accepter d'être un parmi les autres. Mais lui, il en rajoute un peu, quelquefois, si j'ose dire.
C'est-à-dire ?
Il en rajoute, il a un désir de pauvreté qui est ahurissant, quelquefois, ça peut être un appel à répondre à cette... je trouve pas mes mots. C'est un appel à être toujours plus pauvre. Hein, on n'est jamais... Mais pour lui, je crois que cette pauvreté matérielle, elle correspond aussi à un désir d'humilité et de pauvreté spirituelle parmi les autres.
Alors, c'est sûr, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, parce que c'est vrai que quand on lit comme ça, quand il parle d'abjection et autres, on a envie de dire, bon, être le fils d'un charpentier à Nazareth, c'est pas non plus... on n'est pas sur les routes, lépreux, à mendier, donc on se dit, il en rajoute, frère Charles, c'est un romantique. Si je peux me permettre de parler comme ça d'un bienheureux. En même temps, on imagine qu'il y a quelque chose de la méditation du mystère de la croix aussi, ce Christ rejeté, bafoué, etc. Et puis, il y a probablement quelque chose aussi de mystique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui a été révélé de l'intérieur. Alors, comment on peut expliquer ce désir, en fait, forcené d'être toujours plus pauvre, toujours plus petit, et puis aussi, on peut en dire un mot, toujours plus radical, puisque si j'ai bien compris, en fait, frère Charles, Charles vivait une vie, alors je ne sais pas si c'est monastique, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais qui était en fait une ascèse folle à tel point que personne n'a jamais réussi à partager cette vie monastique avec lui. Alors frère Marc, il est sur ce désir de radicalité, et sur ce que ça dit et sur la réalité de cette radicalité.
Ouais, le désir de radicalité, c'est tout à fait vrai, hein. Mais ce qui est assez frappant dans le chemin de frère Charles, donc il va, je sais pas s'il faut en parler maintenant, mais il va donc passer 7 ans à la trappe, il va en sortir parce que il dit la trappe me faisait grandir, donc ça me sortait de cette humilité sociale. Il s'installe chez les Clarisses de Nazareth à côté, dans le jardin, dans une cabane. Elles lui font faire les petites.
À Nazareth, hein.
À Nazareth même, et elles lui font faire les petits travaux que Bernadette a décrits.
C'est l'homme à tout faire, en fait.
L'homme à tout faire, et tout ça. Ils pensent qu'elles ne le connaissent pas, en fait. Elles savent très bien à qui ils ont affaire. Et puis, donc, petit à petit, il y a un malaise. Il y a un malaise qui est lié à plusieurs choses, et je crois que le malaise, il est aussi parce que... C'est assez étonnant qu'à la trappe, par exemple, une des rares fois où il est sorti, il dit dans une lettre, on m'a envoyé prier auprès d'un chrétien du quartier, à la trappe d'Akbès, qui était mort, et il dit, quelle différence entre cette maison où j'ai été et notre couvent, qui est un couvent extrêmement pauvre, c'est des baraques. Mais tout d'un coup, il a réalisé d'une certaine façon que la pauvreté du moine était d'une autre nature que la pauvreté du pauvre.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la pauvreté du pauvre, c'est une pauvreté sociale de non-reconnaissance et de choses comme ça. Et donc c'est ça un peu qu'il découvre. Et il va quitter Nazareth aussi, d'un certain côté, d'une part parce qu'il découvre que lui, on le traite bien, mais qu'un certain nombre de pauvres qui viennent au couvent des Clarisses, on les reçoit un peu...
Mais c'est pas Nazareth qu'il cherche, en fait. Il cherche à imiter, on entend presque Saint François parlant à ses frères, il cherche en fait à imiter le Christ rejeté, le Christ bafoué.
Il cherche à imiter le Christ rejeté, le Christ bafoué, mais ce qui est très intéressant de son chemin, c'est que cette recherche du Christ imité, du Christ bafoué et du Christ rejeté, va l'amener au fond à une autre dimension, qui est la dimension de la fraternité. Et il est parti peut-être sur une dimension de recherche de la pauvreté, et finalement il va découvrir, il est parti sur Nazareth comme une recherche de la pauvreté, mais il va découvrir que Nazareth, au fond, c'est une recherche de la fraternité. C'est un chemin de la fraternité. Et c'est très caractéristique. Au fond, il y a la trappe et Nazareth, qui sont des moments où il est très centré sur la pauvreté excessive, et puis ensuite, il y a la présence au monde.
Alors justement, après je vous donne la parole, c'est promis Geneviève Roland, mais vous pouvez quand même en dire un mot, mon frère, parce que de fait, quand on lit sa vie, il y a une vraie bascule, c'est-à-dire qu'après, donc, il part, en fait, il est autorisé à partir donc dans le sud-oranais, donc à Beni Abbès, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce, puis plus tard à Taman Rasset, et donc il y a cette recherche de radicalité, de pauvreté, etc. Et puis à un moment, je ne sais pas si c'est une conversion à l'intérieur de la conversion, mais il tombe malade et des Touaregs prennent soin de lui. Donc, c'est-à-dire que, et puis se privent de l'essentiel au moment d'une famine. Vous pouvez peut-être rappeler le contexte, ou alors vous, si vous vous sentez, Jeanne Durand. Et là, il découvre quelque chose d'autre. Il découvre quelque chose de nouveau. Il a besoin des autres, il est sauvé par ses Touaregs, et là son cœur s'ouvre à quelque chose de nouveau. Alors allez-y, Geneviève Roland.
Oui.
Est-ce que c'est une conversion à l'intérieur de la conversion, et si oui, quelle
oui,
était-elle?
Je crois qu'il y a plusieurs conversions dans Charles de Foucault. Et là, c'est, pour lui, c'est une conversion parce qu'il découvre que les autres sont bienveillants par rapport à lui. Il y a une réciprocité, il est bienveillant lui par rapport à tous les gens qu'il rencontre, mais il découvre que les Touaregs font tout ce qu'ils peuvent pour le sauver, et là c'est vraiment une autre conversion, il a besoin des autres.
Parce que donc il y a une famine et les Touaregs se privent pour lui offrir du lait et pour lui donner le peu qu'ils ont pour qu'ils vivent.
Et là pour lui c'est une découverte. On est bienveillant par rapport à lui, et je crois que c'était important de le savoir.
Mais de fait, est-ce que c'est romancé, ou est-ce que... Quelle bascule dans son cœur à ce moment-là? Parce qu'on imagine que si c'est quelqu'un d'aussi intelligent, il avait quand même compris qu'il a aussi besoin des autres dans la vie pour aimer, non?
Oui, je pense, mais quand même de voir que tout le monde se mobilise pour qu'il vive, je crois que c'était pour lui quand même une découverte, hein.
D'accord. Alors, peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire encore, peut-être, frère Marcaillier, sur cette vie ? Donc, il y a cette bascule, et après, il y a quelque chose de nouveau, justement, dans la vie de frère Charles, avant qu'on fasse une deuxième pause ?
Je reviens sur la bascule. Je crois que c'est assez important de noter ça, que c'est qu'à un moment, les autres sont entrés dans sa vie, quoi. Et c'est plus tellement... Il n'est pas allé en Algérie pour... On parle souvent de l'ermite du Sahara. S'il a été ermite, c'est pas dans la période où il était au Sahara. Il était ermite au sens où il était seul chrétien, en particulier quand il est lâché à Taman Rasset, où il est le seul chrétien dans ce petit groupe de famille. Mais il n'est pas ermite du tout, il est au milieu des gens. Et la bascule véritable, c'est la bascule de la fraternité. Il est allé en Algérie, il le dit, je devenais prêtre, j'étais en charge du divin banquet, comme il dit, le banquet de l'Eucharistie, et ce repas dont j'étais en charge, il fallait le porter, non pas à la famille, aux amis riches et tout ça, mais à ceux qui sont le plus loin, le plus abandonnés. Et je ne voyais pas d'autres populations aussi éloignées que l'Algérie que j'avais connue et le Maroc que j'avais connu. Et donc, je voulais aller au plus loin. Et ça, je crois, c'est la bascule. Je ne cherche plus la pauvreté, je cherche la rencontre des plus pauvres. Et des plus pauvres aussi de l'Évangile, de ceux qui sont le plus loin de l'annonce de l'Évangile. Je crois que ça, c'est capital.
Radio Présence à Belmont-sur-Ance, 93.1. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, nous parlons de Charles de Foucauld avec cette question toute simple. Qui était Charles de Foucauld? Je vous rappelle que nous sommes avec Geneviève Roland, donc qui est responsable de diocésaine de la fraternité séculière, le frère Marc Ayé, petit frère de Jésus, ancien prieur des petits frères de Jésus, et la petite sœur Bernadette Blandine, petite sœur de Jésus, qui vit à Toulouse en fraternité. Dans cette troisième partie d'émission, je voulais avec vous parler de Charles de Foucauld et de l'islam. Alors, avant de parler de Charles de Foucauld et de l'islam, de voir un peu quelle était sa manière de vivre avec les musulmans et peut-être d'évangéliser, il faut faire en effet un peu un flashback et parler de cette exploration au Maroc. Alors je ne sais pas qui d'entre vous se lance, peut-être vous, petite sœur Bernadette Blandine. Cette exploration au Maroc, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est avant sa conversion, il décide en fait, alors il avait de l'argent pour ça, hein, il décide de partir en exploration au Maroc, qui n'était évidemment pas à l'époque un territoire français, en tout cas pas complètement. Et c'est une expérience fondatrice pour lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cette exploration au Maroc?
Alors, je crois que Charles de Foucauld, après sa vie de garnison, avait envie de faire quelque chose d'intéressant. Et pour lui, explorer le Maroc, c'était une chose qui l'a bien lancé dans cette voie de faire quelque chose qui soit intéressant. Et là, il a bien organisé et il s'est déguisé en juif. Accompagné par, si je ne me trompe pas, par un autre juif. Et là, il a expérimenté, bon, il a fait beaucoup de relevés topographiques, il a dessiné des costumes, beaucoup de choses qui sont vraiment...
Une expédition qui lui a valu les honneurs, d'ailleurs.
D'un grand scientifique. Et il a eu, en effet, un prix...
La médaille d'or de la Société de Géographie.
Donc, ça l'a vraiment sorti un peu du marasme dans lequel il était auparavant. Mais ce qu'il a expérimenté lui-même... C'est le mépris dont étaient victimes les Juifs et le fait d'être quelqu'un de méprisable dans un monde qui avait un autre sens donc de ce qui était bon généralement, socialement. Il a été à un moment reconnu comme étant déguisé. Et les hôtes qui l'accueillaient, par bonté et aussi pour répondre à leur devoir d'hospitalité, ne l'ont pas dénoncé.
Donc il aurait pu, je pense. Mourir ou être dénoncé, être emprisonné.
En tout cas, avoir de sérieux problèmes, hein, si ce n'est être supprimé. En tout cas, il a été par bonté gardé sain et sauf et... Il avait donc expérimenté ce mépris et il a expérimenté la bonté. Et enfin, pour moi, c'est la bonté, il l'expérimentera plus tard quand il se convertira et il répétera souvent dans ses textes « Mon Dieu que vous êtes bon, mon Dieu que vous êtes bon ». Et la bonté l'a toujours accompagné. Et quand il parle d'apostolat de la bonté, je pense que c'est qu'il en a été lui-même bénéficiaire. Et du coup, il devient donateur.
Alors, Geneviève Roland, apostolat de la bonté, vous en parliez en préparant cette émission. Pour vous, c'est un trait essentiel de la spiritualité de Charles de Foucauld. Quand il va à la rencontre des musulmans, il est dans cette démarche d'un apostolat de la bonté. Et qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, d'abord, je pense que la vie de Nazareth, c'est vraiment la vie qu'a voulu mener Charles de Foucauld. Et ma vocation est de mener une vie qui soit à l'image aussi fidèle que possible de la vie cachée de notre Seigneur. Je vais d'abord dire deux mots sur la vie de Nazareth pour
embrayer sur l'apostolat de la bonté. On en a parlé un petit peu.
Oui, voilà, mais le message pour aujourd'hui, je pense qu'il est important en parlant de l'apostolat de la bonté, de la vie de Nazareth. Une vie ordinaire dans l'humble travail quotidien de chaque personne. On a souvent l'impression que notre vie est inutile, qu'une mère de famille, c'est pas très important ce qu'elle fait. Charles de Foucauld montre que chaque tâche a une valeur extrêmement importante, si elle est vécue dans l'amour du Christ. Je pense aussi à tous ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas avoir une action. Et Charles de Foucault disait qu'il n'était pas fait tellement pour l'action, alors qu'il a quand même mené beaucoup d'actions. Hein. Je ne me sentais pas fait pour imiter la vie publique de Jésus. Je devais donc imiter la vie cachée et l'humble et pauvre ouvrier de Nazareth. Alors, il a beaucoup insisté, justement, pour que cette vie de Nazareth pouvait se mener partout.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que cet apostolat de la bonté, c'est évidemment, tout le monde n'est pas appelé à vivre des choses exceptionnelles comme Charles de Foucault.
Et que tout est important pour Jésus. Et ensuite, donc, il nous fait découvrir l'apostolat de la bonté. Et là, j'ai relevé quelques paroles qui sont dites là sur l'apostolat de la bonté.
Alors, allez-y.
Regardez tout homme humain comme un frère bien-aimé. Être frère, par quels moyens ? Par la bonté, l'attention, l'affection fraternelle. Être frère, par l'humilité et la douceur, avec certains, sans leur dire jamais un mot de Dieu ni de la religion, patientant comme Dieu patiente. On peut ajouter être bienveillant. Terme choisi par le pape François, la bienveillance et la miséricorde.
Frère Marcaillet, je vous relance sur cet apostolat de la bonté. On a l'impression avec Charles de Foucault qu'en fait, il essaye de tenir les deux bouts, c'est-à-dire à la fois, il y a une annonce, il parle de Dieu aux personnes qui rencontrent, enfin, me semble-t-il, à moins que je me sois trompé, hein. Et en même temps, évidemment, il le fait en se disant qu'il faut d'abord se lier, il faut d'abord être ami, il faut, c'est pas qu'il faut d'abord, c'est que c'est tout en un, quoi. Je lisais comme ça dans une lettre aussi à René Bazin. Il faut nous faire accepter des musulmans, devenir par eux la missure à qui on va quand on est dans le doute ou la peine, l'affection un ami auprès de qui on peut trouver l'affection, la sagesse et la justice, duquel on compte sur lequel on peut compter absolument, etc., etc.
Je crois que Charles, sa grande passion, il y a un texte d'évangile qui cite souvent, c'est « Je suis venu apporter le feu sur la terre et quelle est mon angoisse jusqu'à ce que ce feu brûle ». Et Charles le cite souvent et je crois que c'était ça, sa perspective en arrivant en Algérie. Mais il se rend compte que petit à petit, en vivant avec les gens, que il a une lettre où il dit « Mais je ne peux pas leur parler de l'évangile comme ça ». Il dit « Ça ferait l'effet d'un musulman qui viendrait prêcher dans un village de Bretagne il y a un siècle, qui viendrait prêcher l'islam, ça n'a aucun sens. La seule chose qui peut parler de l'évangile, c'est une vie selon l'évangile ». Je crois, et c'est pas des mots de lui, mais je crois que c'est une manière de traduire son intuition. Si on veut parler de l'évangile, il faut d'abord vivre l'évangile. Et après, les gens peut-être seront intéressés, attirés, etc., etc. Et c'est ça pour lui, l'apostolat de la bonté. Être frère, se mettre dans une attitude qui accueille l'autre avec ce qu'il est et essayer de vivre l'évangile. Et la première dimension de l'évangile, c'est l'amour du prochain. Sì,
Capella.
Voilà, ce matin, donc, nous parlons de Charles de Foucauld. Qui était Charles de Foucauld ? Alors, à la fin de cette émission, je voulais rapidement parler donc, de la spiritualité de Charles de Foucauld. Alors, évidemment, on a largement parlé entre les lignes, mais il y a quelques points qu'il faut souligner. Entre autres, donc, Charles de Foucauld était un grand adorateur, si je ne me trompe pas. En tout cas, il apportait une place très particulière à l'adoration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, peut-être, frère Marc Ayé, cet adorateur? C'était quelqu'un qui passait des heures devant le Saint-Sacrement.
Alors, ça c'est vrai pour la période où il est à Nazareth, chez les Clarisses, et où il y a le Saint-Sacrement exposé, il passe des heures et des heures. Ce qui est très intéressant chez Charles, c'est qu'il est très concret là-dessus. Le Saint-Sacrement, c'est Jésus. L'Eucharistie, c'est Jésus, c'est tout Jésus. Et donc, il a des mots qui nous font sourire des fois en disant « Ah, mais vous êtes à 2 mètres de moi, vous n'étiez pas plus près de moi que vous étiez de la Sainte Vierge, ou que vous n'étiez pas plus près de la Sainte Vierge que vous l'êtes de moi », des choses comme ça. Donc, c'est la présence de Jésus, c'est ça qui l'intéresse. Et donc, il a aussi le sens très fort que c'est au fond cette présence de Jésus dans un lieu qui mystérieusement rayonne. Il a des textes très forts quand il arrive en Algérie. C'est au fond, il a écrit des règles pour des congrégations religieuses qu'il n'a jamais fondées, dans lesquelles un des objectifs, c'était implanter l'Eucharistie et mettre le Saint-Sacrement comme un rayonnement physique, on allait dire. On en sourit des fois, mais c'est une conviction très forte que là où il y a quelqu'un qui est attaché à Jésus, Jésus est là aussi, et c'est Jésus qui travaille au fond. Et ça, je crois que c'est assez important. Ce qu'on oublie, on a souvent des représentations, y compris des peintures et des dessins ou des icônes, de Charles de Foucauld en adoration devant le Saint-Sacrement exposé à Tamanrasset. On oublie qu'à Tamanrasset, pendant tout un temps, il ne pouvait pas célébrer l'Eucharistie parce que les règles de l'époque, c'était qu'un prêtre ne pouvait pas célébrer seul. Il fallait au moins un chrétien ou un catéchumène ou comme ça. Il a réussi, son évêque de l'époque a obtenu pour lui la permission de célébrer tout seul. Mais en même temps, à ce moment-là, il n'avait plus la permission de garder le Saint-Sacrement avec lui. Et donc, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il a eu 6 ans de sa vie avant d'avoir de nouveau cette autorisation, où son tabernacle était vide. Et donc, il a fallu qu'il vive cette dimension d'adoration autrement. Pour moi, il y a un petit passage que je trouve très important. À un moment où il est dans sa première expédition de contact vers les Touaregs, il commence à planifier où est-ce que je pourrais m'installer. Et il y a un endroit où il dit, tiens, je pourrais me mettre là, en haut d'une falaise, là je serai au calme avec Jésus dans l'intimité parfaite, ou en bas, où là il y aura les gens. Mais je choisis quoi ? Parce que si je choisis en bas, j'aurai plus l'intimité avec Jésus. Si je me mets en haut, j'aurai plus la présence avec les gens. C'est un dilemme. Il demande à Jésus, dites-moi ce que je dois faire. Et il note ce qu'il reçoit dans sa prière comme réponse, et Jésus lui dit, installe-toi au milieu des gens, et là, comme moi à Nazareth, vis près d'eux, vois-moi en eux, et vis près d'eux, perdu en Dieu. Et je trouve que c'est un peu ça, un peu la lumière. Il ne l'a pas réexplicité après, mais pour moi c'est un peu une lumière pour sa vie. Dieu, il est présent aussi dans ce quotidien partagé avec les gens. « Vois-moi en eux », c'est assez fort comme phrase. Si tu vis l'amour, tu me trouveras. Si tu vis la relation avec d'autres, tu me trouveras avec les autres. Et comme moi, Nazareth, vis près d'eux, perdu en Dieu, ça veut dire pas dans les nuages, ça veut dire bien les pieds sur terre, mais ça veut dire aussi pas n'importe quelle relation, une relation nourrie par la prière. Et les deux choses se nourrissent l'une l'autre. Je crois que ça, c'est très important. Même sur ça, au fond, il est passé de l'adoration de l'Eucharistie à une vie totalement eucharistique. C'est-à-dire donner aux autres, en nourriture, à manger, utilement dévorable, comme on dira, c'est une expression dans la fraternité, et en même temps où il rencontre le Seigneur dans le dialogue avec les autres.
Alors l'autre chose, c'est que donc, c'est cet aspect petit frère universel. Alors pour finir, petite sœur Bernadette Blandine, vous pouvez nous en dire un mot, ça veut dire quoi ? On l'a évoqué à plusieurs reprises, et puis ça fait écho à ce que vient de dire frère Marc Ayé, mais qu'est-ce que ça veut dire cette spiritualité du petit frère universel ?
Alors moi, je me réfère à quelques exemples comme ça qui me sont restés. Quand il lutte pour supprimer l'esclavage quand il est à Béniabès et qu'il a libéré en rachetant un enfant.
Donc il faut préciser qu'il y a de l'esclavage. Donc,
il y a de l'esclavage, c'est l'époque. Hein, et donc il fait tout.
Qu'il dénonce d'ailleurs.
Il dénonce, il trouve qu'on n'est pas assez fidèle à notre, je cherche les mots, fraternité, égalité, liberté. Donc il fait tout pour libérer des esclaves. Et il a un petit Abd Jésus qu'il a libéré, si. Et voilà qu'il écrit à un membre de sa famille en disant qu'il doit célébrer l'Eucharistie très tôt le matin parce qu'il y a eu une affluence terrible dans la journée. Il célèbre l'Eucharistie à 4h du matin, 4h30, et le petit enfant joue à côté, et puis il écrit avec l'enfant sur ses genoux et l'enfant lui mordit les oreilles. Donc il se met à la portée d'un enfant qui, après, on lit un peu plus tard qu'il se fait un programme pour l'accueil des personnes, et on voit qu'il accueille à sa table un officier, mais aussi à Taman Rasset des gens de toutes catégories. Et avec chacun, il essaie d'être au niveau. Hein?
Eh ben, merci beaucoup. Alors, il faudra qu'on refasse une autre émission, d'autres émissions pendant cette année pour parler du frère Charles de Foucault. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Bienheureux Charles de Foucault depuis le 13 novembre 2005. Merci beaucoup à nos invités. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.